c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes présents malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs,
sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, il est 9h du matin et vous écoutez l'émission En bas à gauche, la programmation estivale. Tout l'été, vous pouvez nous retrouver les mardis 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville avec une série portant sur la décolonisation en Afrique. Une série qui analysera également les moments forts des révoltes dans le monde arabe cette année, des chroniques, encore des apatrides anonymes portant sur l'actualité en immigration, ainsi que plusieurs autres émissions spéciales. On vous invite à visiter notre blog pour en savoir plus à en bas à gauche, wordpress.com.
Au printemps 2007, la société Elizabeth Fry du Québec a initié un projet faisant appel à la création artistique comme moteur de changement individuel et social. L'idée était de travailler avec des femmes incarcérées ou en processus de réinsertion sociale sur un projet artistique qui leur permettrait de prendre parole pour offrir à la société un nouveau regard sur qui elles sont. Agir, art des femmes en prison, est un événement de diffusion d'œuvres interdisciplinaires créées à l'intérieur de différents établissements de détention. Réalisé sur une période de 2 ans, cette initiative d'art communautaire a engagé dans un processus collaboratif une 50aine de femmes judiciarisées et une 10aine d'artistes professionnels multidisciplinaires. Pour la première fois au Canada, des œuvres créées à l'intérieur des murs de prison abordent des thèmes aussi engagés que la criminalisation de la pauvreté, et ce, avec l'intention d'être présentées publiquement et d'ouvrir un dialogue avec les citoyens. Les œuvres lèvent le voile sur les luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi, mais aussi sur les inégalités systémiques qui maintiennent les écarts et criminalisent la pauvreté. Le point de vue d'Agir se distingue de celui de plusieurs expositions autour de la vie en prison, parce que le travail vient directement des personnes détenues. Agir, art des femmes en prison, a été exposé à Montréal à la galerie Eastern Block du 27 mai au 16 juin 2011. Il y a eu 4 tables rondes sur différentes thématiques. Vous entendrez entre autres Véronique Leduc, finissante à la maîtrise à l'École de travail social de l'UQAM, qui a fait une recherche portant sur l'expérience d'agir par l'imaginaire. Vous entendrez également Sylvie Verville, aujourd'hui incarcérée à l'établissement de Joliette. Sylvie Verville a réalisé à la Maison Tanguay une œuvre photographique intitulée « Blessée », présentée dans le cadre de l'exposition. Nous entendrons Marion Vacheret, professeure agrégée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Marion Vacheret réfléchit sur l'échec du modèle sur lequel nous avons pensé les prisons dans les 30 dernières années, axé sur la gestion du risque des personnes judiciarisées. Enfin, nous entendrons intervenir Justin Pichet, doctorant au sein du département de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Carleton. Justin Pichet s'intéresse au coût de l'incarcération par rapport à celui des alternatives possibles. Également, plusieurs personnes qui étaient présentes à la table ronde interviendront et poseront des questions. Nous commencerons en introduction par une bande audio faite par les femmes en prison. Thank you.
name is Lisa. I'm 31 and I'm trapped in a concrete cage.
Je me prénomme Brigitte, j'ai 46 ans. Je suis un numéro pour le ministère de la Justice, mais un être humain pour ma mère, mes enfants et mes petits-enfants.
La prison n'a pas de visage. À me regarder, on ne pourrait pas deviner, mais déjà 146 mois derrière les murs. À 18 ans, je ne pensais pas vraiment. Tout ce que je voulais, c'était un exutoire pour calmer la souffrance à l'intérieur. Les portes s'ouvriront bientôt. La peur m'envahit. Y a-t-il une place pour moi après toutes ces années? Y a-t-il une place pour moi après toutes ces années? Y a-t-il une place?
Tango, tango, tango.
J'enchaînerai avec toi, Véronique. Tu viens de terminer une maîtrise sur le projet Agir par l'imaginaire.
Une femme que j'ai rencontrée, Gabrielle, a dit « Agir par l'imaginaire, c'est la seule place que je ne me sentais pas en prison. » Puis elle a dit « J'en ai fait des programmes, mais pendant que j'étais là, ça m'a vraiment permis de m'exprimer librement puis d'exploiter ma créativité. » Elle a dit « C'est fou le bien que ça m'a fait. »
Toi qui étudiant en travail social, est-ce que, à fond, c'est quoi les défis de la réinsertion?
Mais moi, en rencontrant les femmes, en fait, c'est la première qui m'a dit reconnaissance, être reconnue. C'était un peu flou, là, un mot à 100$. Fait que en discutant, on se rendait compte que finalement, la reconnaissance, c'est un peu l'envers de la discrimination. Quand tu ne te sens pas discriminée, tu sens. Fait que, en fait, les femmes ont parlé de comment le fait d'être criminalisée, c'est une étiquette qui est vraiment épaisse, vraiment lourde à porter. Ça a été nommé par beaucoup de femmes parce que ça veut dire que très concrètement, ça nous expose à vivre plus de discrimination, notamment dans la recherche de logement, la recherche d'emploi, mais ça a aussi des conséquences au niveau de notre réseau social. Donc, Louise a dit, quand tu t'en vas en prison, tu perds tout. Fait que tu perds ton emploi, ton logement, mais tu perds aussi ton image, de certaine façon, ta crédibilité. T'sais, les gens ne te verront plus de la même façon. Donc, être étiqueté puis être stigmatisé, ça veut dire qu'il y a juste un aspect de notre aide qui est pris en considération. Ça veut dire que pour la majorité des femmes que j'ai rencontrées, elles disent « le regard des gens, il change. Les gens qui ne savent pas, puis les gens qui le savent, ils ne me regardent pas de la même façon. » Puis quand les gens le savent, bien, c'est comme si tout d'un coup, on ne regarde plus la femme comme un être complexe avec plein d'expériences, de désirs, de besoins, mais on la réduit à juste un aspect, au délit qu'elle a fait, puis au stéréotype qui est relié à ça, comme si c'était toujours une voleuse, toujours une menteuse, toujours une manipulatrice. Puis à ça, on rajoute aussi les préjugés reliés à différentes réalités, que ce soit le travail du sexe ou la toxicomanie. Fait que le bagage de préjugés est vraiment... Il est vraiment là. Mais plusieurs aussi refusent l'étiquette et elles se battent contre cette criminalisation. D'autant plus que dans notre société, il y a beaucoup d'actes graves qui ne sont pas criminalisés. Par exemple, on peut penser aux paradis fiscaux où il y a des gens qui échappent au système de justice avec des fraudes faramineuses, alors que d'un autre côté, on criminalise le vol à l'étalage. Donc, la définition du crime, ce n'est pas du tout objectif. C'est le fait dans une société qu'on va définir qu'est-ce qui est un crime, qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut penser, par exemple, à l'avortement ou au travail du sexe. Dans certains pays, ça va être carrément un crime, alors que dans d'autres pays, ça va être un droit. Donc, puis pourtant, c'est la même chose. L'avortement, c'est le même acte, mais dans certains pays, c'est un crime, dans certains pays, c'est un droit. Donc, ça montre en quoi un crime, c'est pas objectif. C'est comment, socialement, on décide qu'on va criminaliser certains actes, mais aussi certaines personnes.
Sylvie, j'aimerais qu'on t'approche le micro parce que toi qui as vécu le projet de l'intérieur comme participante, dans le texte, dans le programme que les gens ont pu avoir, dans le texte qui accompagne ta présentation, en parlant de ton expérience avec le photographe Paul Letterland, tu nous dis « Cet homme m'a ouvert les portes sur un monde de découvertes. Nous sommes passés du basique au vif du sujet. » Qui sont ces femmes cachées derrière de simples numéros, considérées comme de vulgaires criminels? Je me suis donnée à fond, je me suis mise à nu pour cette cause qui est la nôtre. J'aimerais que tu nous parles, Sylvie, de c'est quoi cette cause-là qui est la
nôtre? Écoute, cette cause, c'est qui sont ces femmes derrière ces numéros. On n'arrive pas du jour au lendemain devant les tribunaux, condamnés à des sentences, soit provinciales, soit fédérales, juste comme ça. Il y a des années et des années de souffrance qui se cachent derrière tout ça. Je pense que c'est de ça que je voulais... C'est ce bout-là que j'aurais aimé sensibiliser les gens. On n'est pas des monstres. On est des gens qui souffrent. Puis au travers de nos cris de détresse, on fait souffrir d'autres gens. Pris dans cet engrenage-là, on n'est pas vraiment conscient du mal, du tort qu'on fait. Ça, c'est à quel point on peut souffrir. Écoute, inconsciemment, je pense que j'avais un besoin de refaire confiance. J'avais un besoin de me réconcilier avec le dit système. Un système qui, au départ, m'avait écrasée. Écoute, agir, c'est le début de toute une période de réparation pour moi. Ça a été le début de tout.
Qu'est-ce qui a le plus grand impact sur toi? Que tu peux observer d'avoir participé à ça?
Mais comme j'ai dit, ça m'a permis de recroire.
Wow.
De croire qu'il pouvait y avoir autre chose que juste la réprimande, la punition. Espoir que le système avait autre chose à m'offrir que juste une cage. Tu sais, avec une toilette en stainless steel. Je veux dire, c'est ça que ça m'a donné. Ça m'a réouvert
l'espérance.
Oui. L'espérance, oui.
De croire en toi, puis croire qu'il y a peut-être autre chose après.
Croire au système, croire qu'il y avait autre chose à me donner que juste m'enfermer. Qu'il y avait autre chose à offrir.
Est-ce que pour les femmes qui participaient au projet, tu pouvais observer que ça changeait la dynamique à l'intérieur de la prison? Est-ce que vous vous en parliez de ce que vous faisiez?
Oui, c'est sûr, ça se promenait dans le cours. Puis écoute, j'emmenais les photos, je les montrais. Puis ça attise la curiosité, ça fait des envieuses aussi. Je veux dire, ça va des deux côtés. Mais en général, c'est tu lis l'espoir, tu lis, ça allume des flammes dans le regard des...
Oui, en fait, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est de me rappeler que ça coûte 250 000 par année par femme en prison. 250 000, tu sais, fait, je me dis une femme, puis une autre, un homme aussi, j'imagine que les coûts doivent être assez similaires, mais les montants sont faramineux, tu sais. Et pour moi, dans le fond, je trouve que c'est important d'aller au-delà juste de maintenir l'art en prison parce que derrière ça, c'est aussi de maintenir la prison finalement. Donc, de dire, est-ce que cet argent-là, il ne peut pas être investi avant, tu sais, qu'on se rende jusqu'à la criminalisation? Il y a plein de gens dans notre société qu'on n'écoute pas, qui vivent des réalités de discrimination, de souffrance, tout ça, et comment créer des espaces de prise de parole, de création artistique, mais dans nos sociétés, dans nos communautés, puis peut-être de cette façon-là aussi, réduire tranquillement la criminalisation, tu sais, d'amener les enjeux à la lumière. Fait que moi, je dirais que c'est un double travail, autant de vie, continuer à financer les projets en prison, parce que c'est pas demain matin qu'on va réduire le nombre d'incarcérations, surtout pas avec le gouvernement qu'on a. Fait que c'est important, tu sais, d'avoir des projets pour tout le monde, au-delà des petites spécificités qu'on peut avoir en prison, mais aussi, tu sais, de se battre dans une perspective plus globale dans nos communautés.
Oui, tu écoutes ça? Moi, ça reste dans le monde de la rêverie, là, mais je me dis que 250 000 par année par tête, c'est de l'argent. Si on pouvait se servir de cet argent-là pour reconstruire, pour aider à reconstruire plutôt que de mettre dans un système répressif, ça en ferait un bout de chemin. C'est beaucoup d'argent, là. Et on pourrait en reconstruire des vies avec ça. Mais plutôt, mais au lieu, on sert de cet argent-là pour isoler, pour retirer, pour tasser du revers de la main encore les indésirables, les mal-aimés. Les oubliés, oui.
Merci. Amélie.
Marion Vacheret, de l'Université de Montréal.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier la société Elisabeth Fry pour cette invitation de ce soir et puis pour cette extraordinaire exposition qui, je pense, est à la fois très belle, mais aussi va vraiment nous chercher dans nos émotions et exprime vraiment ce qu'est la prison. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire ce soir en 12 à 15 minutes, c'est... et vous expliquer un petit peu pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui la prison est un échec. Et c'est un petit peu autour de ça que je vais tricoter un petit propos. La prison, c'est sûr que c'est la peine la plus sévère au Canada. C'est une peine qui est extrêmement utilisée. C'est une peine qui est justifiée majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement pour deux motifs. On va dire qu'on a besoin d'utiliser cette peine comme rempart pour la collectivité par rapport au danger que présente la criminalité, donc pour nous protéger. Et puis aussi, on va la présenter comme un moyen éventuellement de changer les condamnés et de les amener à devenir de meilleurs citoyens. Or, je pense que, quelle que soit la justification, on se trompe. On se trompe d'un premier niveau parce que quand on pense que la prison c'est un rempart contre la criminalité, c'est une erreur. Aujourd'hui, on est avec des diminutions de taux de criminalité, on est dans une société qui est relativement pacifiste et on recourt de plus en plus à la prison. Et finalement, on a tendance à pouvoir penser que cet outil, c'est surtout un outil pour un gouvernement de faire valoir qu'il est ferme face à la criminalité, qu'il est capable de nous protéger. Mais on se demande vraiment s'il y a tant besoin que ça d'avoir recours à cette peine alors qu'on n'a pas tant de criminalité que ça. Autre élément pour constater que c'est un échec de penser que ça pourrait être un rempart contre la criminalité, c'est que d'une part, on a des peines beaucoup trop longues. On entend parfois parler des sentences bonbons et des peines très courtes, mais si on regarde notre archipel pénal, on va se rendre compte que les peines sont... Il y a dans cet archipel des peines extrêmement longues, les peines de 25 ans minimum, les peines à durée indéterminée, les ordonnances de surveillance de longue durée. On est dans un processus où on cherche de plus en plus à enfermer les délinquants. Or, ce sont des mesures qui sont généralement appliquées à des gens qui ne sont pas récidivistes, à des gens qui, effectivement, posent un geste criminel, mais qui n'ont pas... On n'a pas besoin d'être protégé contre ces personnes-là et en tout cas pas besoin d'être protégé pour 25 ans ou à perpétuité. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi une peine qui est majoritairement utilisée pour, de façon très très courte. C'est-à-dire que si je prends quelques données, 50% des hommes et plus de 60% des femmes sont condamnés pour des peines inférieures à un mois. Et près de 80% d'entre eux, c'est pour des peines inférieures à 6 mois. Donc moi, je me questionne sur pourquoi a-t-on besoin de se protéger si ce sont des peines si courtes? Je pense que les personnes qui sont condamnées à des peines de moins d'un mois ou même de moins de 6 mois pourraient faire l'objet de mesures alternatives parce que ça n'a aucun sens de les incarcérer dans ce cadre-là. Ça me semble incohérent de dire on se sert de cet outil pour se protéger socialement alors qu'en fait on donne des mesures qui n'ont aucun sens. Autre élément qui m'amène à dire que la prison c'est un échec, c'est qu'une des justifications c'est de dire on va préparer la réinsertion sociale ou l'insertion sociale des condamnés. Il y a un énorme paradoxe derrière ça, c'est que la prison c'est un outil de désocialisation, c'est un outil qui enferme, qui isole, qui exclut, qui amène la personne à perdre ses liens avec sa famille, à perdre son emploi si elle en avait un, à perdre son logement. Donc je pense que là aussi on est face à un non-sens de justifier l'incarcération en disant ça va t'aider à mieux te réinsérer, mais le premier travail qu'on fait avec ces personnes-là c'est de les désocialiser complètement. C'est déjà pas facile d'avoir une place dans la société, mais après quelques mois, quelques semaines, quelques années de prison, ça devient un défi pratiquement insurmontable. Finalement, le troisième élément sur lequel je pense qu'on fait aussi échec, c'est par rapport à tout le travail qui est fait en détention. Alors là, je vais peut-être être un petit peu plus nuancée parce que c'est clair que depuis 30 ans, puis c'est une des grandes forces qu'on a au Canada, on défend l'idée de réinsertion sociale et on a mis en place tout un processus extrêmement organisé, extrêmement structuré, qui va justement essayer de mettre à profit le temps de détention pour amener les condamnés à changer. L'idée en elle-même est très forte et je pense que il faut la maintenir. Oui, toute personne peut changer et toute personne peut retrouver sa place dans la société. Là où je pense qu'on en fait un échec, c'est qu'on a transformé en l'espace de 30 ans une philosophie de réinsertion sociale en une philosophie de contrôle. Et que finalement, en 10 ans, on fait de la réinsertion sociale, si on examine plus en détail le processus, on se rend compte qu'on fait surtout de la neutralisation, du contrôle et de la protection de la collectivité. Pour vous expliquer un petit peu mon propos, ce processus donc, qui existe depuis 30 ans, c'est un modèle, on va l'appeler le modèle des risques et des besoins, ou le modèle de gestion des risques. C'est un modèle extrêmement organisé par lequel on va évaluer les condamnés, essayer à la fois de prédire leur potentiel de récidive ou leur risque de récidive à partir d'outils statistiques. Et on va essayer également de cibler leurs problèmes criminogènes ou les problèmes qu'ils ont qui les auraient amenés à poser des gestes criminels. Et à partir de ces doubles évaluations, donc à la fois les risques que ces personnes pourraient présenter pour la collectivité et leurs besoins en termes de réinsertion sociale, on essaye de travailler avec eux en détention. Donc on va leur offrir un certain nombre de programmes pour les amener justement à résoudre leurs problèmes. Et l'idée derrière ça, c'est que si on arrive à résoudre ces problèmes, qui peuvent être des problèmes de toxicomanie, des problèmes de violence, des problèmes d'employabilité, toutes sortes de difficultés, on pense qu'en les aidant à travailler sur ces problèmes-là, on diminuera leur risque de récidive, donc ils se réinséreront mieux dans la société et on protégera mieux la collectivité. Ce processus qui a pris naissance dans les années 80, il s'est énormément développé tout au long des dernières décennies. Et ce qu'on constate, c'est que quelque part, il marche. Parce que statistiquement, les personnes qui ont suivi des programmes, leur taux de réadmission en détention sont moins élevés que des personnes qui n'ont pas suivi de programme. Mais là où moi, je suis très critique par rapport à ce phénomène, c'est que en voulant faire quelque chose de tellement structuré, de tellement organisé, de tellement bien ficelé, on en a fait un modèle extrêmement bureaucratique, très lourd, dans lequel l'humain a totalement disparu. Finalement, on travaille avec des données statistiques, on travaille avec des chiffres, les indicateurs qui vont nous permettre de dire cette personne présente des risques ou ne présente pas risque, c'est simplement un calcul de probabilité. Compte tenu de votre âge ou du délit que vous avez commis ou de votre situation familiale, vous avez plus de probabilité de commettre un crime qu'une autre personne. Où est la personne derrière ça? Où est la réalité? Elle n'existe plus. on va aussi avoir tendance à définir les personnes à partir uniquement de leurs problèmes criminels, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Donc tout le reste est oblitéré et ça devient une personne qui est un délinquant avant tout, qui n'est plus autre chose, et on va surtout le comprendre à travers ses gestes de délinquance. Donc là aussi, son humanisme disparaît. C'est aussi un modèle qui est tellement rigide, qui est tellement sûr de lui, que les condamnés n'ont aucune marge de manœuvre là-dedans. On va, à partir de ces évaluations statistiques, on va leur dire, vous, votre problème, c'est la violence. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas, il faut que vous travailliez ce problème-là pour pouvoir vous réintégrer dans la collectivité. Et le condamné n'a aucune marge de manœuvre, ne peut pas dire, ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le système qui a parlé. C'est aussi un modèle qui est tellement bien organisé qu'il est très lourd, qu'il est pratiquement impossible à mettre en place tel qu'il faudrait qu'il soit mis en place. Donc on se retrouve avec des personnes, on décèle au départ un certain nombre de problèmes, on leur fait tout un plan d'intervention, ils doivent suivre 5, 6, 8, 12 programmes, puis ils n'ont pas le temps, dans le temps de leur sentence, de suivre ces programmes-là. Donc certains ne vont même pas se présenter aux audiences de libération conditionnelle parce qu'ils n'auront pas eu le temps de faire ce qu'on pense qu'ils devraient faire pour sortir. Donc finalement, on est dans une sorte de système très paradoxal, parce que alors que ça devrait les aider à sortir plus vite, ça les retient plus longtemps en détention. C'est aussi un système qui est très centré sur une normalisation des comportements. Si on regarde, comme c'est les mêmes grilles pour toutes, c'est les mêmes évaluations pour tous, c'est aussi les mêmes programmes pour tous, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est l'homme ou la femme idéale. Le comportement socialement accepté, celui qu'on veut, qu'on pense être le bon comportement. Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, il n'y a pas vraiment de place pour les différences culturelles, les différences sociales, voire même pour les différences entre hommes et femmes. Il y a vraiment un côté moulage des comportements à travers tous les programmes qu'on leur demande de suivre. Puis il ne faut pas oublier que tout ce processus, il est peut-être très bien dans l'absolu, mais il est tout aussi efficace dans la collectivité qu'en prison. Il n'a pas besoin d'être mis en place en détention pour être efficace. Donc, ce que je dirais pour boucler la boucle, c'est que on a tendance à justifier la prison soit par cette idée d'être protégé, puis je pense que c'est ridicule, c'est un non-sens, mais soit par cette idée de travailler sur la réinsertion sociale. Et finalement, ce qu'on fait, c'est que on va aggraver la situation de certaines personnes, on va, plutôt que les aider à se réinsérer, on va les ancrer dans une désinsertion sociale. Et moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que par ce processus-là, on se désengage socialement. On dit, ben, la prison fait ce qu'elle a à faire, donc je ne me préoccupe plus de ce qui se passe. Et en fait, ce que fait la prison, c'est qu'elle fait mal les choses.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez la programmation spéciale estivale de En bas à gauche.